Radio Kapi. Plusieurs officiers de FARDC arrêtés ces dernières heures à Kinshasa, ils sont accusés des actes graves portant atteinte à la sûreté de l'État, indique le porte-parole de FARDC. Et contrairement aux rumeurs dans les réseaux sociaux faisant état de leur disparition, le président de la CNDH assure qu'ils se portent bien et que la condition de leur détention est acceptable. La coalition Lamouka tire la sonnette d'alarme sur les conditions et les moyens de transport en RDC. Selon Prince Epengue, bien qu'il paye pour se déplacer, les Congolais perdent la vie chaque jour entre les secteurs volants, roulants et flottants. La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets à l'issue d'un échange organisé le 18 novembre entre les autorités urbaines, municipales et divers experts dans le cadre du projet Assainir Kinshasa soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC. Pour en parler, nous recevons Melia Bosiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Journal Parlé. L'armée congolaise frappe fort. Plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC ont été arrêtés ces dernières heures. Selon le porte-parole des FARDC, ils sont accusés d'actes graves portant atteinte à la sûreté de l'État. Le porte-parole de l'armée, général Sylvain Ekenge, affirme que le dossier étant dans son étape pré-juridictionnelle et pour éviter de violer les principes des secrets d'investigation, il faut éviter d'énerver la justice. Cette information était donnée lors d'un point de presse organisé samedi 22 novembre à l'état-major de l'armée à Kinshasa. Jude Mister Bilanda.
Prenant la parole en premier, le général Sylvain Ekenge n'est pas allé par les dos de la cuillère quant aux inquiétudes de certaines ONG relayées par les réseaux sociaux en ce qui concerne l'arrestation de plusieurs officiers généraux et supérieurs.
C'est vrai, plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC sont actuellement interpellés. Nous les confirmons. Mais ils le sont pour des faits hautement répréhensibles liés à la sécurité de l'État.
Concernant la durée de leur détention, les porte-parole de l'armée déclarent que c'est sur demande du parquet militaire qui mène les enquêtes. Sylvain Ekenge.
Pour besoin d'investigation approfondie, leur durée de détention est conformément à la loi prolongée sous demande du parquet militaire qui mène des enquêtes.
Présent à cette cérémonie, le président de la Commission nationale des droits de l'homme déclare avoir vu personnellement les officiers interpellés. Il affirme qu'ils se portent bien et que leurs conditions de détention sont jugées bonnes conformément aux normes en vigueur. Paul Sampou.
Mais tous alors, tous, ils sont vivants et en bonne santé dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les autres lieux d'enfermement. Mieux qu'à Makala, par exemple, mieux qu'à Andolo.
Le FARDC précise que tous ces officiers interpellés par le Centre national des cyberdéfenses sont assignés à résidence dans des conditions acceptables. Ils sont sous le régime de la liberté contrôlée.
Pendant ce temps, un groupe d'insurgés a mené une attaque dans le village de Nkana, situé à 75 km de Kinshasa, dans le territoire de Kwamout, province du Maïndombe, dans la nuit de samedi à dimanche 23 novembre 2025. Profitant d'un effectif réduit des forces de sécurité dans la zone, les assaillants ont pénétré dans ces villages riverains du fleuve Congo vers 3h du matin et ont affronté quelques militaires déployés sur place. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 5 combattants Mobondo. Côté armé, un soldat est tombé sur le champ d'honneur et un autre est grièvement blessé. On écoute à ce sujet le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Ngemba, dans cet extrait proposé par Guy Matechongo.
Les insurgés ont massacré 13 civils, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et incendié quelques habitations. Pris de panique, de nombreux habitants de Nkana et des localités voisines ont fui. Certains ont trouvé refuge dans la commune de Maluku à Kinshasa, tandis que d'autres ont traversé le fleuve pour se mettre à l'abri au Congo-Brazzaville. Le calme est revenu en matinée grâce à l'arrivée d'une unité des FARDC basée à Kwamout City. La navigation des baleinières sur le fleuve Congo a néanmoins été perturbée par ces violences. Le commandement des opérations Gemba présente ses condoléances aux familles des victimes et assure que des dispositions sécuritaires renforcées ont été prises. Les FARDC poursuivent actuellement les insurgés Mobondo, auteurs de cette attaque meurtrière.
Par ailleurs, l'ONG Journaliste en Danger, JED, a publié samedi à Kinshasa un rapport sur les crimes de guerre commis contre la presse en RDC. Dans ce rapport de 32 pages, cette structure de défense du droit de la presse parle d'une situation alarmante des professionnels des médias pris en étau dans la partie est du pays entre les autorités et les forces de l'ordre ainsi que les différents groupes armés actifs dans la région. Parmi les principales recommandations pour remédier à cette situation figurent notamment des enquêtes sur les assassinats des journalistes et le respect de la liberté de la presse. Le condensé de ce rapport avec Marc Marofimbo.
Dans ce rapport, Journalistes en Danger s'insurge contre l'enrôlement forcé des journalistes dans les rangs de la rébellion qui consacre la fin des médias indépendants et la mort du journalisme professionnel dans les territoires sous occupation du M23 et où plusieurs installations des médias ont été réduites au silence par les rebelles. Mais il n'y a pas que les rebelles qui s'en prennent aux professionnels des médias dans l'est de la RDC, écrit JED. Parmi les principaux auteurs des attentes à la liberté de la presse figurent également les services de sécurité et des renseignements, mais aussi les autorités congolaises et des membres appelés combattants de certaines formations politiques. Poursuit les rapports. J'ai de note par ailleurs que depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, il y a 7 ans, 12 journalistes ont perdu leur vie. Face à cette situation, JED recommande aux autorités des enquêtes approfondies sur les assassinats des journalistes afin de mettre fin à l'impunité des crimes contre les chevaliers de la plume. L'ONG invite enfin les groupes armés à respecter les droits des journalistes et la liberté de la presse. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
La coalition Lamuka tire la sonnette d'alarme sur les conditions et les moyens de transport en RDC. Selon Prince Epengé, bien qu'ils payent pour se déplacer, les Congolais perdent la vie chaque jour entre les secteurs volants, roulants et flottants. En une semaine, un avion s'est écrasé à l'atterrissage sans enquête. 2 baleinières ont fait naufrage avec plus de 100 passagers. Pas d'enquête ni condoléances présentées. Il exige l'amélioration des conditions et des moyens de transport en RDC. On écoute Prince Epengé, cadre de la Lamuka, dans cet extrait choisi par Guy Matechongo.
Les Congolais perdent la vie chaque jour. En une semaine, un avion s'est écrasé à l'atterrissage au Katanga. Il n'y a toujours pas eu d'enquête sérieuse. Les 4 enquêteurs partis se retrouvent bloqués, sans manger, sans billet d'avion pour rentrer à Kinshasa. 2 baleinières ont fait naufrage sur la rivière Sankuru et sur le lac Tanganyika, avec pas moins de 100 Congolais qui ont perdu la vie. Aucune enquête sérieuse n'est menée jusque-là. Nous exigeons l'amélioration des conditions et des moyens de transport en RDC. Les statistiques indiquent que chaque mois, 100 Congolais meurent noyés dans les lacs, les fleuves et les rivières du Congo à cause de l'irresponsabilité de ceux qui sont censés organiser ce secteur-là.
Et puis, en Ituri, le trafic est coupé depuis 5 jours sur les tronçons Bunia-Kasseni, un axe essentiel qui relie la province à l'Ouganda et approvisionne plusieurs agglomérations en vivres et autres produits de première nécessité. Le pont Bogou, situé à 5 km de Bunia et qui menaçait de s'effondrer sous le poids des camions, est désormais complètement hors service. Conséquence, plusieurs produits vivriers commencent à pourrir, alertent les commerçants. De nombreux chantiers de construction sont également à l'arrêt, faute d'accès au site de recharge des matériaux au Mont Bleu. Isaac Remoyope.
Des centaines de véhicules transportant des marchandises sont bloqués de part et d'autre du pont Bogou. Même les motards sont obligés de traverser la rivière à moto pour transporter les passagers et leurs biens. Les commerçants, dont les produits vivriers, pommes de terre, tomates, bananes, oignons, importés d'Ouganda commencent à pourrir, lancent un appel urgent au gouvernement pour une réhabilitation rapide du pont.
Vers l'autre côté. Nous avons des marchandises, il y a des pommes, il y a des oranges qui ont déjà commencé à pourrir aussi. Il n'y a pas d'autres positions là où on peut encore faire transiter d'autres marchandises. Nous n'avons pas autre choix à faire. Nous attendons que là qui sont capables à reconstruire ces pommes.
D'autres opérateurs économiques tentent de décharger leurs marchandises pour les acheminer sur des motos, mais les risques de perte sont importants et les coûts très élevés, déplorent-ils. Des dizaines de camions qui transportent du sable, du gravier et des moellons sont immobilisés paralysée depuis 5 jours, faute d'accès au site du Mont Bleu. Une situation qui bloque les travaux de construction sur plusieurs chantiers et prive la main d'œuvre des revenus. Tout s'appelle le gouvernement à réhabiliter en urgence les ponts défectueux sur cet axe vital dont dépend la survie d'une grande partie des habitants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans les mêmes registres Sud-Kivu, la RN2 Bukavu-Goma au Nord-Kivu, coupée au niveau du village Louchébéré dans les territoires de Kalehe, interrompant ainsi le trafic routier. C'est à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur cette région la nuit dernière, causant des dégâts matériels importants. La société civile locale parle plus d'une centaine de maisons endommagées, de champs agricoles inondés et de cultures dévastées par les eaux de pluie. Cette structure citoyenne appelle à une action urgente pour la réhabilitation de ces tronçons routiers vu son importance capitale. On écoute ses leaders communautaires, joints par Denise Loukesomapanda.
La pluie qui s'est abattue dans notre village de Louchébéré a fait des dégâts énormes. La route Louchébéré vers Nyamukubi est coupée, les inondations illiées, les champs dévastés, une centaine de maisons endommagées, des champs. Les cultures ont été emportées par la pluie et nous, comme population locale, nous sollicitons l'intervention urgente des autorités. Soit on apporte des machines pour libérer les passages, ou soit un salon spécial par la population locale pour que les 5 points chauds où la route a été coupée soient libérés. Et cela en toute urgence, car cette route nationale numéro 2 est d'importance capitale, aidant à évacuer les produits agricoles vers les grands centres de négoce de Nyabibu, un centre minier à Kalehe, à Bukavu, mais aussi de Louchébéré vers Makelele et Minova et Kalungu, les grandes agglomérations.
Restons au Nord Kivu. Kantine et Malese, deux localités du territoire de Beni, risquent d'être coupées bientôt du reste du territoire à cause de la dégradation avancée de la route Kantine Malese Mabalako. De gros bourbiers et des érosions sont visibles sur cet axe routier des dessertes agricoles. À cela s'ajoute le mauvais état des ponts qui ne permettent plus le passage des camions de marchandises et de produits champêtres. Les usagers de cette route demandent aux autorités de remplacer l'actuel attributeur qu'ils jugent inefficace. L'un d'eux, motard de son état, le dit au micro de Marc Marofimbo.
La route est tellement dégradée. Si c'était réellement la pluie, on pouvait comprendre, mais ça montre combien de fois que la route n'était pas entretenue. Et face à la dégradation continue de cette route très cruciale pour les habitants des cantines, la population des cantines et de ses environs estime qu'il est inacceptable de rester des bras croisés tant que le véritable attributeur qui va remplacer la société Primotech n'est pas encore connue ou désignée. Les conditions de circulation deviennent de plus en plus difficiles si les autorités ne prennent pas de décisions concrètes pour désigner un nouvel attributeur compétent. D'autres actions seront envisagées pour faire attendre notre voix. Cette initiative citoyenne illustre la détermination des habitants des cantines, Mabalako et ses environs à améliorer leur cadre de vie et à revendiquer leurs droits.
Contactée, la société Promotech parle d'un problème momentané de panne technique avec ses engins. Un mot sur la santé dans ce journal. À Matadi, une délégation d'acteurs de la société civile venue de Kinshasa mène un plaidoyer auprès des autorités provinciales du Congo central. D'après Étienne Chimanga-Mulumba, directeur technique de la coordination nationale de renforcement du système communautaire, l'objectif poursuivi est d'obtenir un financement local pour soutenir la prise en charge de la tuberculose, du VIH-Sida et de la malaria en ces temps où les financements internationaux diminuent fortement.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron a entamé dimanche 23 novembre une visite d'État au Gabon visant à renforcer et renouveler le partenariat bilatéral 2 ans après la fin de l'ère Bongo. C'est la première visite du président français depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. Le chef de l'État français a atterri à Libreville en fin d'après-midi pour la 3e étape de cette tournée africaine, commencé à l'île Maurice et en Afrique du Sud avant l'Angola lundi. Il a été accueilli sur les tarmacs par le président gabonais Brice Oligui Nguema, élu en avril après 19 mois de transition politique.
L'invité.
La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets à l'issue d'un échange organisé le 18 novembre entre les autorités urbaines, municipales et divers experts dans le cadre du projet Assainir Kinshasa PASKI, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC. Invité de Radio Kapi, Melia Bosiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa, explique que ce projet triennal vise à transformer la gestion des déchets en une véritable industrie urbaine à impact. Elle plaide pendant pour le renforcement de la gouvernance, de la coordination interinstitutionnelle et de la redevabilité afin d'impliquer chaque citoyen dans la réussite de ce programme. Melia Bosiki s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Melia Bosiki.
Oui, bonjour.
Vous venez de participer à la session de validation du plan d'assainissement de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces documents?
La première des choses, c'est que la ville de Kinshasa s'est dotée d'une planification sur la gestion intégrée de ces déchets. Donc des déchets urbains produits par nous-mêmes, donc par les Kinoises et Kinois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est que cette planification est basée sur l'économie circulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas à déchets enfouissement, mais nous réfléchissons sur une chaîne de valeur de comment collecter les déchets, comment faire le tri à la base, comment vendre ces déchets, comment prendre le reste de déchets et le valoriser pour autre chose. On donne une autre vie à ces déchets. C'est une stratégie qui va nous permettre de réduire significativement les déchets tels que vus sur la place publique.
La ville-province de Kinshasa produit environ combien de tonnes de déchets par jour?
Certaines études disent 17 000, d'autres disent 15 000, d'autres disent 12 000. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une mégalopole avec une estimation de près de 20 millions d'habitants et que ça devient une urgence de prendre en considération les différents déchets selon toutes leurs catégories produits dans la ville de Kinshasa.
Vous estimez à combien les coûts de la mise en œuvre de ces plans triennaux?
Tout dépendra de la déclinaison annuel que nous allons faire. C'est même l'enjeu pour lequel nous sommes venus à cet atelier. Un coût estimatif a quand même été proposé. Nous estimons à peu près entre 30 millions à 50 millions le mois pour traiter ce problème.
Bénéficiez-vous de l'appui de certains partenaires pour la mise en œuvre de ces plans?
On espère vraiment le concours des partenaires pour la mise en œuvre de ce plan. Mais pour le moment, comme vous le savez, nous avons les subventions que nous recevons du niveau central, donc du pouvoir central, et aussi ce que les taxes et les impôts que nous captons au niveau de la province. Mais c'est vrai que l'économie circulaire va nous permettre justement d'avoir une vue un peu plus globale. Par exemple, le secteur privé sera très intéressé, surtout le secteur privé qui fait de la valorisation des déchets.
Quels sont les grands défis à relever à l'horizon 2028?
Premier défi, je pense, à mon humble avis, que c'est le changement de mentalité. C'est la sensibilisation de nous tous pour avoir les bons gestes, pour qu'on arrête de jeter partout, jeter dans les caniveaux, jeter dans les rivières. Toute cette éducation civique doit être prise en compte dans notre population. La deuxième des choses qui marche avec ça, c'est la coercition. Parce que pour qu'on ait ce changement de mentalité, il faut des contraventions, il faut des pénalités, il faut que tout le monde sache qu'on ne jette pas n'importe comment les déchets. Le deuxième axe que moi je trouve très important, ça s'attache aux infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque nous interdisons à la population de jeter partout, il lui faut un dispositif qui lui permet de jeter à l'endroit adapté ou adéquat, dans le dispositif adéquat. Et ça, il faut le faire dans la mesure de l'étendue de la ville de Kinshasa. Le troisième axe que je trouve très très important, c'est les infrastructures en termes de centres de transit, les centres de transfert pour d'autres, les centres de tri pour la vente et les centres de valorisation. Aujourd'hui, le modèle d'avoir qu'un seul site comme PASA pour toute la ville de Kinshasa a montré clairement ses limites et il nous faut réfléchir à peu près à 4 à 5 sites de décharge finale pour une ville comme celle de Kinshasa.
En marge de ces projets, au nom de la ville-province de Kinshasa, quel est le message que vous lancerez à toute la population kinoise qui vous suit sur la radio de la paix, Radio Kapi?
Une seule chose, c'est de savoir que l'autorité urbaine, donc son excellence Daniel Bumba Lubaki, veut vraiment que dans son mandat de changer la face de la ville de Kinshasa. Et il a mis tout en action pour le rendre réalisable. Et nous attendons juste de la ville de Kinshasa ce soutien, de l'accompagnement de la ville, de croire que Kinshasa et Zobonga n'est pas un slogan, mais vraiment une réalité. Croyez en ça.
Madame Melia Bosiki, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité Melia Bosiki qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à notre édition du journal Parler, coordonné par Richard Junior Kamunga, supervisé par Jude Mister Bilandan Kumar et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Ce journal est à retrouver sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiokapi.net.